Introduction à la philosophie par le père Philippe Arimon, le 19 décembre 1992, troisième cours.
Nous allons continuer cette petite recherche. Vous comprenez que le point de départ de la philosophie est important à préciser pour que on soit sur le roc. Autrement, si on doit s'élever très haut, on risque après de ne plus avoir de stabilité. Si la philosophie existe, être ami de la sagesse, c'est donc une connaissance qui cherche à connaître l'homme dans toutes ses dimensions, de la manière la plus exhaustive et la plus profonde. Et c'est ça qui permet de voir qu'est-ce qui peut être le point de départ. Il faut un point de départ radical. Autrement, il y aura quelque chose qu'on laissera de côté. Et c'est pour ça que si vous réfléchissez de cette manière, vous voyez que le point de départ radical ne peut être que l'expérience. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Que nous pensons, nous réfléchissons, mais liés à un corps. Le corps n'est pas une prison. Pour Platon, c'est une prison. Mais ça, c'est un a priori. C'est que c'est vrai, pour certains, c'est une prison. Le corps n'est pas une prison. Pas de raison de dire a priori le corps est une prison. Puisque par nos sens externes, nous avons des fenêtres qu'on peut ouvrir, dont on peut se servir, et qui sont en connaturalité avec le monde extérieur, le monde physique. Notre intelligence, qui est spirituelle, est de fait présente à nos sens, de sorte que l'expérience la plus forte, qui est une expérience qui se sert des sens externes, elle atteint la réalité autre que moi. Différente de moi-même. Je peux évidemment atteindre ce que je suis. Et c'est important de comprendre cela. Mais je ne l'atteins jamais en premier lieu. Génétiquement, donc selon un ordre génétique, on atteint d'abord les réalités extérieures. Regardez le gosse. Il est pris par les choses extérieures. L'expérience externe a ceci de très particulier, c'est qu'elle est fondamentale. C'est évident, c'est pas l'expérience la plus parfaite. Tout à fait d'accord que l'expérience intérieure est beaucoup plus parfaite. Quand je réfléchis sur ce que je pense, par exemple, quand je réfléchis sur l'amour que j'ai pour telle ou telle personne, c'est beaucoup plus intérieur que de lui serrer la main. quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », c'est quelque chose d'intérieur que vous exprimez. Vous pouvez dire aussi « ah, tu ne m'es pas indifférent ». Mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand je te vois, je suis heureux de te rencontrer. Très bien. Quand je te vois, je te salue. Très bien. Je t'aime. C'est pas la même chose. Je voudrais te connaître. Je voudrais savoir qui tu es. C'est autre chose. Que de toucher à l'extérieur. Mais au fond, vous aimez quelqu'un. Pourquoi? Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous l'avez regardé. Puis vous avez essayé de comprendre que cette personne, c'est pas parce que vous la regardez, vous l'aimez, puisque vous en regardez une autre et puis il n'y a rien qui vient. Vous êtes indifférent, très mystérieux, vous voyez. L'amour est intérieur, c'est sûr. C'est une grande expérience intérieure, l'amour. Alors, quand on dit que la philosophie repose sur l'expérience externe, on dit, moi, c'est très pauvre. C'est très pauvre. L'expérience intérieure est bien plus riche. Dans le dialogue de Froissart et du pape, Froissart se pose la question aux saint-père, qu'est-ce que vous mettez en premier lieu, l'expérience externe, l'expérience interne? Il dit ça à propos des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Et le pape répond, oh, la voie intérieure, l'expérience intérieure. Je comprends très bien. Mais si je veux aller jusqu'au bout, mon expérience interne dépend de mon expérience externe. Vous savez, cette question de la primauté d'expérience interne et externe, c'est une très grave discussion ancienne entre Aristote et Platon, entre Aristote et Plotin. C'est très très curieux. Il y a des dialogues de Plotin, ce point de vue, qui sont extrêmement intéressants. Pour Plotin, l'expérience interne est évidemment beaucoup plus forte. Et on est d'accord. On vit plus de l'expérience interne que de l'expérience externe. Quand on commence à prendre un peu d'âge, quand on est jeune, on vit beaucoup d'expérience externe. Et tant qu'on te commence un tout petit peu à réfléchir et à aimer, l'expérience interne prend une grande place. Oui, c'est ça qui était curieux. Il y a un équilibre différent pour chacun d'entre nous entre l'expérience externe. C'est pour ça qu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Et les voyages d'avant, tout le point de l'expérience externe. Et plus on va loin, plus on est dépaysé, plus on s'intéresse à regarder des choses qu'on n'a jamais vues. L'expérience interne, c'est du déjà vu, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, faisons attention quand nous disons que tout commence par une expérience externe. Ça n'exclut absolument pas l'expérience interne. Absolument pas. Et j'enrichis du reste, c'est ça qui est très curieux, j'enrichis ma capacité d'expérience externe grâce à mon expérience interne. Vous voyez, on est plus ou moins attentif. Quand on n'est pas attentif du tout, oui, quand tous les matins on fait le même parcours, au bout d'un certain temps, on ne regarde même plus, on rumine. La Samaritaine qui va chercher de l'eau tous les jours, pendant que son mari dort et fait la méridienne, après qu'elle pense, est-ce qu'elle... Non. Une petite chanson à la mode. ressasse intérieurement. C'est le point de vue externe, c'est le point de vue interne, ça, mais interne, imaginatif. Dans l'intériorité, il y a beaucoup de demeures. Et dans l'extériorité, il y a des capacités d'attention très différentes. C'est vrai, chacun d'entre nous, on se rappelle tel paysage qui nous a beaucoup frappé, tel visage. Étonnant. Premier voyage que j'ai fait en Grèce, je me souviendrai tout le temps, ça. J'ai fait avec des étudiants de Fribourg et de Genève, et surtout des artistes, un sculpteur de Genève que j'aimais beaucoup. Pour la Grèce, vous faire le voyage avec un sculpteur et des philosophes. C'est vrai, c'est le pays de l'art et le pays de la philosophie. Alors on allait, un petit groupe par petit groupe, on allait dans les îles, parce qu'Athènes, c'est Athènes, très bien. L'acropole, c'est sûr, c'est sûr. Mais dans la ville même, il y a des magasins comme partout. On vend des souliers comme partout. Très intéressant vers la philosophie du soulier, c'est un trésor qui m'avance beaucoup. Tandis que dans les îles, on trouve des paysages étonnants, et puis des personnes. Alors tout d'un coup, je reçois un coup de poing dans la poitrine. C'était mon sculpteur. C'est regardez cette déesse. Ah, il tombait presque en pamoison devant une déesse qui passait. Descendait directement de l'Olympe. Il était là. Elle avait des yeux grecs. Je comprends très bien qu'un sculpteur soit en extase devant ça. Mais cette expérience externe qu'il avait était enrichie de toute une expérience interne. C'est ça qu'on voit chez les artistes qui sont très attentifs à la nature, très attentifs au regard. Du reste, quand un artiste vous regarde, parce qu'il fait le croquis, en 2 minutes, là, vous dites, après, on est passé. Mais... Et c'était très vrai, je comprends très bien qu'il soit saisi par ça. Vous voyez, quand je prends l'expérience, je prends quelque chose auquel on est tout entier attentif à ça. On est saisi par ça. Autrement, non, ça signifie rien du tout. Ça y est, expérience. Mais une expérience, quand elle est au point de départ de la philosophie, c'est une expérience où on est tout entier saisi par cela. Vous voyez, le travail, un travail dur, ça peut être aussi un travail intellectuel. Et quand on sèche en face d'une feuille de papier blanche, et que plus on la regarde, moins on a d'idées, c'est aussi pas très drôle. C'est un travail qui n'a pas de fécondité. Le travail demande d'être efficace. Et puis quand vous travaillez, et puis que tout d'un coup ça arrive, il y a une expérience profonde. Le travail est lié à l'expérience de l'efficacité. Et c'est quelque chose de grand, voire quelque chose qui vient de nous et qui provient de nous. Vous voyez, toute expérience externe, quand elle est vraiment humaine, implique une expérience interne. Mais toute expérience interne peut être coupée de l'expérience externe. C'est pour ça que quand je vous parle d'expérience externe, avec les sens externes, il y a tout le point de vue de l'expérience interne. Et c'est l'expérience externe qui prend alors à ce moment-là toute sa force. Et les deux sont liés, mais il faut faire la distinction. Parce que si je base toute ma philosophie sur l'expérience interne, je n'arriverai jamais à sortir du vécu. Alors, il faut que ce vécu soit pris à sa source. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que la source de notre connaissance, c'est vraiment cette expérience externe, liée à l'expérience interne. C'est tout moi-même qui est pris. et qui est saisi par le regard, par le toucher. C'est toute mon imagination, toutes mes expériences antérieures qui sont prises par ce que je constate. C'est important, cela, de comprendre cela. Et voyez, c'est le point de départ, c'est la source. L'inspiration, elle est une sorte de source. L'intuition, c'est une autre sorte de ressource. L'inspiration, c'est quand ça vient de quelqu'un d'autre. J'ai entendu comme une voix. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Un être inspiré. Vous avez dû rencontrer un être inspiré. Et ceux qui se disent prophètes, il faut être sûr qu'ils soient vrais prophètes, ça, avant de courir après. Mais, ils sont saisis. Et puis, il y a cette intuition source. Mais l'intuition et l'inspiration ne sont pas des sources premières. Et c'est ça le souci du philosophe, de retrouver la source. Je prends ici, vous savez, la manière, la définition très très belle de Peggy à propos de la philosophie. Peggy n'est pas un philosophe, il est beaucoup plus philosophe que Descartes était philosophe. Parce qu'il réfléchit, il est un peu poète, il réfléchit. Et Peggy dit ceci. Descendent le fleuve. Tous ceux qui descendent le fleuve, c'est ceux qui n'ont qu'un seul souci, c'est de s'adapter. Et Peggy ajoute farouchement, les cadavres descendent plus vite le fleuve que les autres. Donc la définition de celui qui descend le fleuve, c'est d'être cadavre. Donc quand vous dites, et quand vous demandez à quelqu'un pourquoi tu fais ça, et qui répond, tout le monde le fait. Vous répondez, espèce de cadavre. Ça les corrigerait, n'est-ce pas ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire de faire comme tout le monde ? Ça signifie rien du tout. Je connaissais comme ça un jeune artiste, un jeune peintre à Fribourg, que j'aimais beaucoup. Il faisait des choses qui étaient belles, il y avait une fraîcheur assez étonnante. Puis un beau jour, il a fait une exposition, puis il s'était mis à l'art abstrait. Ça, il avait perdu tout, absolument toute sa sensibilité. Il avait dit, mais pourquoi tu fais ça? Tout le monde le fait. Oh, je dis, espèce d'imbécile. Mais tu n'es pas tout le monde. En tant qu'artiste, tu as quelque chose à dire qui est propre à toi. Alors il m'a regardé. Je lui dis oui, je crois, absolument, tu as quelque chose à faire. Vous voyez, les cadavres descendent le fleuve plus vite. Le philosophe, ajoute Peggy, remonte à la source. Alors il y a deux sources. Il y a une source cachée et une source visible. Hein, faut toujours vous rappeler ça. Une source cachée et une source visible. La source du feu, visible. La source du feu, invisible. Héraclite disait ça. Il y a une source visible. La source visible, c'est ce contact que nous avons avec les autres. Les rencontres que nous faisons. Et la réalité extérieure à nous. C'est une source. Quand vous connaissez quelque chose de nouveau, jamais vu cet animal, quelque chose d'extraordinaire. Et vous l'avez vu en photo, et puis tout d'un coup vous le voyez en réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez vu son nom dans le Larousse, et puis vous le découvrez subitement. Tiens, c'est ça. C'est vrai, la première fois que vous voyez en liberté, non pas dans un zoo, un animal, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Un lion en liberté, oui, c'est quand même quelque chose de particulier. tandis que quand vous le voyez, bien sage, parce que complètement abruti, c'est pas la même chose du tout. Alors on commence à comprendre. Vous voyez, une source, remonter à la source. Et puis il dit, c'est difficile de remonter à la source. Alors lui prend la source, le principe. Et le principe ultime, c'est-à-dire au fond Dieu, c'est vrai, c'est difficile de remonter à la source. Mais même de remonter à la source, très simple de la réalité, c'est difficile. Parce qu'on vit dans la pollution, on vit dans l'imaginaire, on vit avec les a priori, on vit sans chercher la réalité, on vit des mots, des mots. Vous savez bien le dialogue que j'ai entendu moi, au début, qu'il y avait des TGV.
Certain temps que vous avez
dialogue avec ces philosophes. Descartes, qu'est-ce que Descartes dit sur la liberté? Qu'est-ce que Thomas d'Aquin dit sur la liberté? Qu'est-ce que Aristote dit sur la liberté? Très bien, vous avez des, comme ça des quantités de choses diverses. Mais où est la vérité? Suivre Aristote, c'est bien, parce que quand même, il a une certaine autorité. Mais l'autorité est la dernière des raisons au point de vue philosophique. C'est très bien pour une dissertation. Hein, pour une dissertation de Bachot, c'est que ça nous veut. On peut faire ça, ça peut. On a le droit de faire ça, de prendre comme ça plusieurs positions diverses. Ces positions diverses, petit à petit, il y a une petite étincelle qui arrive. Alors ça, on a le droit. Vous avez le droit dans les examens d'employer des mots dont vous ne connaissez pas la signification. Vous roulez votre professeur s'il n'est pas très intelligent. Mais vous n'avez pas le droit d'employer des mots dont vous ne savez pas la signification. Quand vous faites un cours, quand vous faites une conférence, vous n'avez pas le droit. Doit aller au-delà des mots pour retrouver la réalité. Tout le temps. Et là, on voit très bien, vous voyez, passer un examen. Bon, oui, il faut le passer, c'est conventionnel, un examen. C'est pas du tout philosophique. Hein. Même si on passe un examen de philosophie, c'est pas philosophique du tout. C'est une expérience qui relève de la communauté, qui veut se garantir d'avoir des gens intelligents. Bon, c'est très bien que les gens très intelligents passent très mal les examens. Il faut toujours se consoler. Et puis il y a la bête de somme qui réussit parfaitement tous les examens. C'est comme ça, vous êtes fort en thème et fort en version. Parce que les examens, c'est les mots. Tu veux juste un physicien comme ça, un professeur, c'était un professeur de sociologie. Ça se faisait très vite et on n'apprenait pas beaucoup son sens. On suivait, il était amusant et puis c'est tout. Et alors, c'est que ça va, il fallait dire le mot, le mot. Il disait tout le temps ça. Si on savait le mot, ça allait très bien. Il savait ça. Peu importe la signification, vous savez le mot. C'est suffisant. Parce que ça aussi, c'est un problème. Platon se demande si la philosophie repose sur les mots ou sur l'expérience. Aujourd'hui, on pourrait se poser la même question. Est-ce que la philosophie est une philosophie du langage, puisque ça existe, ou une philosophie de la réalité? Si c'est une philosophie du langage, on s'arrête au langage. Pourquoi s'arrêter au langage? Ou pourquoi ne pas faire une vraie philosophie? On ne peut pas s'arrêter sur le langage. Parce que le langage, sur la très belle analogie d'Aristote, c'est comme la monnaie. Le langage, on se sert du langage pour communiquer ce qu'on pense. Mais quelqu'un qui se sert du langage sans penser, c'est un perroquet. Faites de la philosophie avec un perroquet. C'est amusant d'entendre un perroquet, mais au bout de 5 minutes, on en a assez. Parce qu'on s'aperçoit qu'il dit toujours la même chose, qu'il a appris. La philosophie, c'est atteindre le réel. C'est atteindre le réel, chercher ce qu'est l'homme et la vérité sur l'homme. Et c'est par l'expérience que vous atteignez la réalité. Le langage sert à la communication. C'est la communication. Et l'argent sert justement à la communication, le commerce. C'est la communication. S'il n'y avait pas d'argent, vous voyez, on serait obligé d'emporter toute sa fortune tout le temps avec soi, je ne serais pas très commode. Ça facilite beaucoup, et la parole facilite beaucoup. Mais je ne peux pas rester sur la parole, parce que la parole, c'est quelque chose de second. Elle est pour que je pense. Et quand j'entends une parole nouvelle, c'est très bien, mais il faut la dépasser pour rejoindre la réalité. Donc, soyez convaincus de cela, mais convaincus par expérience qu'une philosophie réaliste et ceci est très important. Une philosophie réaliste commence par les expériences de l'homme. Vous voyez, selon l'ordre génétique, la première expérience, c'est l'expérience du travail. Je crois. Réfléchissez bien, c'est celle-là. Puis c'est celle-là qui, quantitativement, est la plus importante. Vous voyez, le nombre d'heures de travail dans sa vie. Encore plus que de sommeil. Parce que le sommeil, c'est déjà pas mal. Mais normalement, un homme normal travaille plus qu'il ne dort. Je crois un homme qui dort autant qu'il travaille, c'est pas très glorieux. Je travaille 8 heures par jour.
De volonté. Et les travailleurs sont des hommes qui ont de la volonté.
ils savent travailler. Et puis il y a de la compétence un peu. Il n'y a pas que la volonté, il y a l'intelligence aussi qui est présente. Donc la grande expérience de travail, l'autre expérience, diamétralement opposée, c'est l'amour d'amitié. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de regarder ces deux grandes expériences capitales. Vous voyez, l'amour d'amitié, vous allez me dire, mais c'est purement d'intérieur. Et exprès, je dis amour d'amitié. C'est pour traduire le mot philia grec. Le mot philia grec. Qui traduit par amicitia. Amitié. Alors en français, le mot amitié a perdu beaucoup de valeur. C'est pour ça que pour redonner au mot amitié tout son sens, il faut dire amour d'amitié. On oppose, on a écrit des livres amour et amitié. Et alors l'amitié, c'est la camaraderie. Et l'amour, c'est autre chose. C'est l'amour érotique, c'est la passion, c'est la. C'est inverse là, l'amour. Et alors c'est faux. Le véritable amour, c'est un amour spirituel qui va beaucoup plus loin. Et cet amour spirituel ne peut s'épanouir parfaitement que dans l'amitié. Parce que l'amour d'amitié, c'est un amour réciproque. Vous ne pouvez aimer vraiment quelqu'un que s'il vous aime. C'est curieux, ça. Parce que quand vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, vous êtes à la recherche. Vous courez après. Tant que vous courez, vous n'aimez pas. Donc, vous n'êtes pas entièrement dans la possibilité d'aimer. C'est la réciprocité donne cette confiance totale en l'autre qui fait qu'on peut l'aimer. Je crois que c'est capital. Alors, ça, évidemment, je comprends que c'est pas très commode, mais j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi que l'expérience de l'amour d'amitié, c'est l'expérience la plus fondamentale de notre vie. Vous voyez, le travail, c'est l'expérience la plus étendue. C'est l'expérience la plus étendue. Réfléchissez ce soir le nombre d'heures que vous avez travaillé. En écoutant un cours, vous travaillez. Évidemment, on peut dormir. Mais à ce moment-là, vous ne travaillez pas. Mais si vous écoutez un cours en étant attentif, en essayant de lutter contre le sommeil, d'être attentif, c'est un travail. C'est sûr. C'est un travail. On écoute. On met son intelligence à l'écoute. L'amour d'amitié, c'est plus du travail. C'est très différent. Mais l'amour d'amitié, c'est l'expérience numéro un de l'homme. Aimer quelqu'un et le choisir. Et le choisir comme ami. Et de rejoindre le choix de l'autre. C'est l'expérience la plus forte. C'est ça qui me permet de découvrir l'autre. Vous ne découvrez vraiment l'autre que quand il est un ami. Alors évidemment, vous pouvez faire la découverte d'autres personnes qui vous semblent intéressantes. Cette personne, elle m'intéresse, oui, très bien. Mais vous la découvrez vraiment que quand elle est un ami. Alors, je crois, vous voyez, que l'amour d'amitié va nous permettre aujourd'hui de poursuivre ce que représente la philosophie éthique. Tandis que le travail nous permet de découvrir la philosophie de la réalisation. De la réalisation de l'efficacité. L'œuvre que je fais. C'est ça le travail. Le travail est source d'efficacité. Alors, il y a un travail tout simplement qu'on fait c'est de l'ordre de l'exécution. La philosophie de l'efficacité, de l'exécution. Vous exécutez. Mais aussi un travail beaucoup plus important, qui est un travail artistique. C'est l'homme. L'homme. Face à l'univers.
Je transforme mon corps. Il y a un travail.
représente, pour moi personnellement, l'expérience humaine la plus typée et la plus profonde. L'expérience humaine qui dévoile le plus l'homme. Et puis la coopération. Alors je dis bien l'expérience de la réalité, parce que dans l'amour d'amitié, c'est l'ami que je regarde. Et ce n'est pas l'amour que j'ai de l'ami. C'est tout à fait différent. Et il en faut très facilement dans notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde, au fond, qui est constamment un monde subjectif. Les gens, dans l'amour d'amitié, regarde plus l'amour qu'ils ont pour leur ami que l'ami. Et c'est ça qui explique toutes les déviations dans l'ordre de l'amitié. C'est ça qui explique, en définitive, j'en suis sûr, tous les divorces. On a promis fidélité, on s'est aimé, mais on a aimé l'autre pour la jouissance. On a aimé l'autre en regardant l'amour qu'on avait pour l'autre. Et puis on a regardé, autant qu'on le pouvait, l'amour de l'autre et non pas l'autre. Je dis, mais tiens, tu m'aimes moins que d'habitude aujourd'hui. Vous voyez, tu m'aimes moins que d'habitude. Ben oui, mais qu'est-ce que ça va faire avec l'amour d'amitié? Rien du tout.
Session d'introduction à la philosophie par le père Philippe à Rimont, le 19 décembre 1992, quatrième cours.
Pourriez-vous nous préciser les sept dimensions de l'homme et les sept athées? Qui les détruisent. Bon, je vous donne les sept, si vous voulez. Parce que je crois que c'est important à réfléchir, ça. C'est quelque chose qui nous aide. Je ne vous les donne pas dans un ordre historique. C'est Étienne Borne qui dit que Hegel a été source de toutes ces idéologies athées. C'est pas entièrement vrai. Il y a Auguste Comte, positiviste. On peut pas dire que Hegel est à sa source. Mais c'est très vrai que l'hegelianisme, qui n'est pas du tout un athéisme, qui est juste l'inverse. C'est pour ça qu'on dit Hegel de droite, Hegel de gauche. Hegel est au contraire l'affirmation que, en définitive, l'intelligence n'est elle-même que quand elle s'identifie à Dieu. Ça ne veut pas dire que Hegel est Dieu. C'est l'intelligence. C'est vrai pour la philosophie. il y en a, on a la tentation de penser, de dire que ce que nous pensons en science, c'est la réalité. Mais non, c'est ce que vous avez pensé la réalité. Et ce que vous pensez la réalité n'est jamais la réalité. La réalité est bien plus riche. Heureusement. Alors ça fait partie de tout l'aspect critique sur une philosophie réaliste. C'est que ma pensée philosophique n'est pas la réalité. Mais c'est pour ça que la vérité, c'est être conforme à la réalité. C'est pas être identique à la réalité. Tandis que pour Hegel, sa pensée dialectique, c'est la réalité. Et la dialectique marxiste, c'est la réalité. Tandis que pour nous, si on est philosophe et non pas idéologue, l'idée n'est pas la réalité. Vous avez de très belles idées, mais regardez comment vous vivez. Ça arrive de temps en temps, ça. Il y a des gens qui ont des très belles idées et qui vivent autrement. Parce que c'est pas la même chose. Alors, je vous nomme ces sept formes d'idéologie. Et je mettrai en parallèle comment ces sept formes d'idéologie sont comme la contradiction des sept dons du Saint-Esprit. C'est curieux. Parce que les sept idéologies athées sont des anti-béatitudes évangéliques. Et étant des anti-béatitudes évangéliques, elles sont de fait, ces idéologies athées sont de fait des œuvres en opposition avec les dons du Saint-Esprit. Alors comprenez bien, il ne s'agit pas de faire un concordisme, de dire qu'on veut. Non, non. Croyez bien qu'il faut étudier ces idéologies athées pour elles-mêmes. Si on est chrétien, on se dit, mais c'est curieux. Ces idéologies athées, toutes, veulent exalter l'homme, donner à l'homme sa béatitude. De Lubac, quand il a parlé des idéologies athées modernes dans le temps, c'est déjà assez vieux, a très bien compris que les idéologies athées, c'était des mystiques, des anti-mystiques chrétiennes. Alors, je voulais les premières, le positif. Positiviste d'Auguste Comte. Vous voyez ce que c'est que le positivisme? On l'est tous un peu. J'ai fait un appareil pour mesurer le positivisme. Je lui dirais, tiens, c'est une petite fièvre, quart, qu'on a tous un peu. On a tous un peu ça. Le positivisme consiste à considérer que la seule connaissance valable, c'est les connaissances scientifiques. Pensez à Monod et pensez aux disciples de Monod, président de la bioéthique, qui a été nommé président de la bioéthique il n'y a pas longtemps. Vous pensez à ces gens-là. Pour eux, c'est très simple. La morale doit se modifier en fonction des progrès de la science. Donc, la science dit, la biologie dit exactement ce que c'est que l'homme. Alors, il y a cette petite histoire, très très jolie, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est étonnante. C'est Jean Bernard, qui n'est pas entièrement positiviste, en partie. Il commence à en sortir. Il faut espérer qu'il en sortira complètement. Et qui était président de la bioéthique. En France. Jean-Bernard m'a raconté cette petite histoire. Il allait, pendant les vacances, dans sa maison de campagne, je ne sais pas, chez la maison paternelle, ses parents sont morts, mais la maison paternelle, où il avait connu sa jeunesse. Alors, l'instituteur de l'endroit, sachant que Jean-Bernard venait, Jean-Bernard, il a tous les sacrements auprès du certificat, à peu près, je crois, c'est-à-dire qu'il est agrégé, il est le prix Nobel, il a tout. Alors, l'instituteur de l'endroit lui dit, est-ce que vous ne pourriez pas venir faire des petits cours de sciences biologiques à mes petits-enfants ? Ces petits-enfants de à l'école, quoi, de 10 ans à 15 ans. Vous ne pourriez pas ? Alors, Jean-Bernard, qui est très gentil comme homme, puis simple, dit très bien, je dirais. Alors, il a exposé ce que c'est que la biologie. Comment la biologie regardait le sang, comment la biologie regardait tous les organes humains. Et il avait dit, comme je vous dis, n'hésitez pas, s'il y a des difficultés, de les noter, d'écrire un petit mot. Alors il a reçu un petit mot, extrait bien écrit, calligraphie parfaite. Il m'a dit, quelqu'un sans doute de 10 ans, parce que quand on grandit après, l'écriture change, hein. Éclose, applique, et puis c'était pour monsieur le professeur, c'était quelque chose quand même. Hein. Alors, elle avait écrit, merci, mais qu'est-ce que c'est que l'âme ? Vous n'en avez pas parlé. Signé Brigitte. Alors, il a écrit un livre. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Dit Brigitte. Tout ça merveilleux, oui. Le dialogue d'une petite fille de 10 ans avec ce grand savant. Et ce grand savant veut répondre. Alors évidemment, il a dit que la biologie ne disait rien sur l'âme. C'est sûr. Parce que c'est difficile de toucher l'âme avec le scalpel. C'est difficile de regarder l'âme. Il cherchait bien à creuser, hein, dans le cœur, puis il n'y aura pas un cri tout d'un coup, hé, hey, mon âme. Non, c'est rien du tout, c'est, l'âme se tait, invisible. Et cependant, il faut écouter les spirituels, c'est comme ça qu'il terminait son livre, il faut écouter les spirituels, il parle de l'âme humaine, le biologiste. Alors voyez, si vous dites que ce que la science biologique dit de l'homme égale l'homme, vous direz, il n'y a pas d'âme. La science biologique dit quelque chose sur le corps de l'homme, et le corps de l'homme n'est pas l'homme. C'est quand même très important de voir ça. Quand on est dans cette perspective-là, on y reviendra là-dessus, parce que c'est quand même très très important de comprendre ces choses-là. La science biologique, la science physique, dit quelque chose de la réalité. Ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. Ça, le filet, c'est la méthode. Ce que ma méthode scientifique saisit, je dis qu'il y a ça. Mais la réalité, elle n'est pas dans mon filet. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, la philosophie est là pour rappeler tout le temps. Il faut dépasser le positivisme. Le positivisme, c'est quelque chose de très, très enraciné en nous. Hein. Au début du siècle, on l'appelait scientisme. C'est-à-dire qu'on voulait montrer que creuser avec une telle force que pratiquement la connaissance sera amenée à la connaissance scientifique. Donc le positivisme. Deuxièmement, on prend tout de suite le marxisme. Ça, on le sait très bien ce que c'est. Marx, Lénine et compagnie. N'est-ce pas ? Troisième forme de philosophie athée. On pourrait dire ensuite Sartre. Sartre a une forme particulière de l'athéisme. Le primat de la négation. Dire le néant et l'être. Vous voyez, c'est très curieux. Sartre met l'être et le néant tellement la convance, selon le langage courant, on met l'être avant le néant. Et tout le livre est pour montrer que le néant est avant l'être. Donc il devrait dire le néant et l'être. On le voit pas toujours. l'affirmer. Il faut Sartre pour le dire explicitement. Alors là, la négation, la néantisation est première. Freud. Freud est aussi une sorte d'athéisme. Enfin, distinguons bien la méthode freudienne. destruction la plus radicale de l'homme. Quand il dit qu'il y a au cœur de l'homme, qu'il y a ce complexe d'Œdipe, on définit l'homme par ça. C'est pas fameux. Et dans le malaise de la civilisation, Freud a cette chose très étonnante où il montre, ça c'est très très curieux, parce qu'il y a un regard en disant que selon toute la grande tradition chrétienne, l'homme est la créature la plus parfaite. Alors il dit non, puisque de fait, un complexe qui définit l'homme, le concept, le complexe d'Œdipe. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il montre les trois manières dont on a détrôné l'homme de sa grandeur. Et il dit, alors, c'est ça, c'est la vision freudienne, de voir la terre n'est plus le centre de l'univers. Première manière dont la terre était le centre de l'univers, puisque c'était là où l'homme habitait. C'est sûr. Je crois pas qu'il y ait des habitants dans le soleil. Difficile. Donc, le seul qui pense parmi les créatures, et quand il est sur le lieu, bon, il dit que la terre c'est le centre de l'univers. Pour moi, c'est le centre de l'univers. Pour moi, on y vient. Pour l'homme, c'est sûr. Centre de l'univers. Même si ça bouge, ça n'a pas d'importance. Je bouge avec tout le monde. Donc, on supprime. Deuxièmement, l'évolutionnisme. L'homme sort de l'animal. De l'animal le plus parfait. Et troisièmement, Freud qui arrive, le point de vue complexe d'Œdipe. Donc, les trois manières de relativiser l'image de Dieu. C'est intéressant, c'est pas bête, hein, du reste, comme Freud. Il y a toujours quelque chose de vrai. Dans ses idéologies athées, il y a toujours quelque chose de vrai. C'est pour ça que c'est important, j'ai pas le droit de les laisser tomber, ça n'a aucun intérêt. C'est intéressant de voir comment on a de fait meurtri l'homme et diminué l'homme pour arriver à faire que l'aspect le plus profond de l'homme disparaît. Nietzsche, bienheureux, la béatitude de ceux qui ont soif. Les sept dimensions de l'homme, puisque toute la philosophie essaie de comprendre représente la personne humaine. La personne humaine dans le monde, dans la communauté humaine, face à l'homme. Et on verrait, alors c'est ça qui me semble très intéressant au point de vue proprement philosophique et au point de vue théologique, c'est qu'on verrait que les sept dons du Saint-Esprit s'emparent des sept dimensions de l'homme pour faire le surhomme. Et ça, on verra ça après. Je laisse en suspens quelque chose de très intéressant, venez. Comme ça, ça vous maintient en haleine. Quand vous dites on aime l'autre en regardant l'amour qu'on a pour l'autre et non pas l'autre, qu'est-ce que en regardant l'amour de l'autre, qu'est-ce que cela signifie? Aimer l'autre pour soi, je comprends, et en regardant notre amour, mais justement l'amour d'amitié, c'est aimer l'ami pour lui-même. Donc, l'ami, en tant qu'il est une personne que j'ai choisie et que j'aime. Et comme cet amour est réciproque, je peux dire que, et on le dit très facilement, en réalité, ce n'est pas aimer la personne, c'est aimer celui qui m'aime. Et quand je dis c'est aimer celui qui m'aime, parce qu'il m'a choisi, je regarde donc non plus la personne, mais l'amour de l'autre pour moi. Et si je regarde l'amour de l'autre pour moi, alors à ce moment-là, il n'y a plus le réalisme de l'amour d'amitié. Et il faut maintenir ce réalisme de l'amour d'amitié qui fait qu'on aime l'autre pour lui. Un philosophe regarde l'homme avant la nature, ou la nature avant, ou les deux ensemble, dans un seul verbe, amour. Si oui, alors quelle est la première expérience de l'homme ou de la nature? C'est vrai. Attends, il faut essayer de bien comprendre ça. Il faut comprendre qu'au plan philosophique, dès que je réfléchis sur ma connaissance, je commence toujours de l'imparfait vers le parfait. C'est comme ça qu'on a tous commencé, quoi. Si vous commencez à faire de la philosophie, votre philosophie est très imparfaite. Puis petit à petit, vous y arrivez. Donc on part de l'imparfait, c'est ce qu'on appelle l'ordre génétique. L'ordre génétique va de l'imparfait vers le parfait. Puis il y a un ordre de perfection. On va du parfait vers le vers l'imparfait. Il y a deux ordres différents. Et ce qui est terrible, c'est qu'on confond constamment ces deux ordres. Alors que la philosophie doit distinguer constamment ces deux ordres. Quand je dis que la première expérience est le travail, c'est pas l'expérience la plus parfaite. C'est la plus proche de moi. Nous avons tous appris à travailler. Vous allez me dire, oh mais avant de travailler, j'ai aimé. J'ai aimé ma mère. J'ai aimé mon papa. Pas eu conscience de ça. C'est au moment du travail, l'expérience du travail, qui a été le plus difficile à accepter. Aller au boulot, c'est pas drôle du tout. On a tous aimé faire l'école fusionnière et partir louper, détromper ses parents, tous ceux qui nous surveillaient. Ça nous regardait plus, pas intéressant du tout. On a tous été un peu paresseux, quoi. voyez, quand je dis c'est l'expérience type, première dans l'ordre génétique, elle n'est pas du tout la plus parfaite. Pas du tout. À aucun point de vue. L'expérience du travail. Du travail manuel. Du travail intellectuel. L'expérience qui est, j'allais dire, congénitale à l'homme. Alors je crois que c'est très important de bien distinguer ce qui est premier dans l'ordre génétique. Ce qui est premier dans l'ordre génétique au point de vue de l'expérience. C'est pas la nature, c'est ce que l'homme fait. C'est ce qui vient de lui. Ce qu'il est capable de transformer. L'expérience de la nature, vous allez le voir, ça va venir après. Ça, on peut discuter là-dessus, mais c'est important à voir qu'il y a deux ordres qu'il faut tout le temps respecter. L'ordre génétique et l'ordre de perfection. Et vous voyez, la psychologie prend uniquement l'ordre génétique. Et c'est cela sa faiblesse. Et ne regarde pas assez l'ordre de perfection. On revient sur l'ordre de perfection pour critiquer l'ordre génétique. Et l'ordre génétique nous aide à comprendre l'ordre de perfection. Normalement, on passe de l'ordre génétique à l'ordre de perfection. Mais évidemment, pour avoir l'ordre de perfection, il faut avoir atteint le parfait. Et on ne l'atteint pas tout de suite. On devient intelligent. Je ne crois pas du tout que l'enfant dans son berceau est très intelligent. Il est capable d'être intelligent. Mais il faut que son intelligence se développe. On est tous capables d'être intelligents. Heureusement. Vous voyez, on met du temps. Alors il y en a qui quelquefois, vont très vite. Et d'autres plus lentement. Mais vous savez, c'est la fable de la tortue, du lièvre. Je ne vais jamais oublier ça. C'est comme ça, on se rattrape tout le temps. Il faut tout le temps. On a des formes d'intelligence différentes. Alors il y en a qui sont très forts en mathématiques. D'autres qui sont très forts en littérature. C'est rare que les deux se rencontrent. Ça peut. Ordinairement, il faut découvrir la forme d'intelligence qu'on a. Et ça, ça se découvre progressivement. Alors, ce qui est merveilleux en philosophie, c'est que on peut entrer en philosophie par la philosophie de l'art. On peut entrer en philosophie par la philosophie de l'amour d'amitié. C'est une intelligence affective. L'amour d'amitié, c'est une intelligence affective. On peut entrer en philosophie par l'intelligence. Il y a des gens qui ont une facilité énormément, une expérience de communauté, par la solidarité, par le point de vue de la coopération. On peut entrer en philosophie par une expérience de la nature, de la matière, ou du vivant, ou la métaphysique. Mais il y a diverses portes. Mais il y a un ordre génétique que nous devons saisir. Et pour nous, pour chacun d'entre nous, l'ordre génétique est un peu différent de notre voisin quand il s'agit de la connaissance. Tout dépend de notre alliance de l'intelligence avec nos sens. C'est curieux ça, mais c'est intéressant à noter. Celui qui vit pour une idéologie croit vivre pour la vérité. Rechercher la vérité. Non, il est sincère. Il faut distinguer la vérité et la sincérité. Je crois qu'un idéologue est sincère, il confond sincérité et vérité. Il ne dit pas du tout qu'il cherche la vérité. Il cherche à être sincère. Ordinairement, un idéologue dit ça. Il croit rechercher le bien de l'homme. Par exemple, Marx croit chercher le bien de l'homme, non pas de l'homme, du travailleur. Pas de l'homme. Et l'exemple, c'est pour être ouvrier. Il cherche l'ouvrier et le bien de l'ouvrier. C'est pas la même chose. Tu t'identifies pas ouvrier et homme. C'est le philosophe. philosophe qui cherchait la vérité grossièrement. Et justement, l'erreur, c'est au bout d'un certain temps identifier une partie avec le tout. On cherche, on devient spécialiste d'un domaine et on croit que ce domaine est tout. Freud cherche la vérité. Et non, jamais. Il n'emploie pas ce mot vérité. Il cherche. Ah, c'est intéressant, c'est un médecin. Vous savez comment ça a commencé le freudisme à Sainte-Anne, à Paris. Et ça, j'ai beaucoup de dialogues. J'étais prêtre ouvrier pendant un certain temps avec des psychanalystes freudiens. Alors, j'étais prêtre ouvrier avec eux. C'est-à-dire que j'acceptais de passer des soirées entières avec eux pour essayer de travailler avec eux, pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la... C'est eux qui sont venus frapper à ma porte. Il paraît que vous êtes aristotélicien. Donc, on va pouvoir s'entendre. Vous vous occupez de l'homme et vous respectez l'expérience de l'homme. Je dis oui. Autant que je peux. Eh bien, nous respectons l'expérience de l'homme et nous occupons de l'homme. Je dis, ah, très bien. Est-ce que vous acceptez de venir dialoguer avec nous? Alors, on était trois. On était deux philosophes. Et puis, il y avait trois psychanalystes. Ils avaient comme principe d'aller toujours le plus loin possible de notre recherche de la vérité, même s'il fallait s'engueuler ouvertement et vertement. Ce qui est arrivé certaines fois, on s'est quitté en se disant, est-ce qu'on va se retrouver? Et on se retrouvait 15 jours après, parce que la colère avait passé. Mais j'allais quand même dire la vérité. Et quelquefois, on doit dire la vérité en prenant le fouet. Jésus l'a fait. Il a pris le fouet. Chasser les vendeurs du temple. Alors, c'était très, très curieux. Parce qu'on avait dit, ça va pas être très drôle. Hein. Deux philosophes, trois psychanalystes, freudiens. Alors, on peut peut-être amener nos amis. Alors, on était d'accord d'amener nos amis. Alors, comme ça, on était quand même une vingtaine. C'était plus drôle. Et alors, les amis sont partis, et les psychanalystes sont restés, et moi je suis resté avec eux, parce que c'était des amis. Alors, immédiatement, première réaction, oh, une telle qui est venue, oh, elle aurait besoin d'un petit coup d'analyse. Ah, je dis, mais quoi? Est-ce que je vous ai amené des clients, ou est-ce que je vous ai amené des amis? C'est très important. Vous ne savez plus faire une expérience humaine. Et vous êtes tout le temps dans l'expérimentation. Alors quand vous dites que votre fille, que vous reposez sur l'expérience, pas du tout. Vous regardez l'homme à travers votre prisme de freudien. Alors, dès le début, voyons, oulala, c'est accroché. C'est pas du tout, c'est pas du tout. Même pas su recevoir ces gens que vous ne connaissiez pas, et vous avez dit que c'était des amis. Et vous avez eu tout de suite un besoin d'un petit coup d'analyse. Donc vous l'avez regardé comme un client, et je suis persuadé que tout ce que cette personne a dit, vous l'avez regardé dans la lumière freudienne. Alors ils ont dit, vous avez dit, oui, c'est vrai. Donc vous les avez poursuivis. Et vous êtes incapable de regarder l'homme tel qu'il est. Vous le regardez dans le prisme psychanalytique. Tandis qu'au contraire, le philosophe, moi je m'intéresse à vous, je regarde davantage l'homme ou la femme, parce qu'il y avait une freudienne merveilleusement intelligente, tu vois, c'était la plus intelligente. J'essayais de la comprendre. Et non pas uniquement dire ce qu'elle dit, c'était René, c'est Freud qui l'a dit. Non, pas du tout. Il y a un a priori. Découvrir quelqu'un d'original, vous voyez, c'est là on voit très bien qu'est-ce que c'est que chercher la vérité, c'est respecter la réalité telle qu'elle est. Autrement, on ne cherche plus la vérité. On projette sur l'autre ce qu'on est. C'est très difficile. C'est ça qu'apporte la philosophie. La philosophie n'apporterait que l'éveil à l'expérience et être accueillant vis-à-vis de l'expérience nouvelle qu'on a, mais ce serait énorme, parce qu'on pourrait progresser. Tandis que m'a appris de voir qu'est-ce que c'est que la méthode freudienne. Et au bout d'un certain temps, je leur ai dit, vous aimez plus votre méthode freudienne que vos malades. Alors ça, c'est une colère bleue. Parce qu'ils m'ont donné l'exemple. Ils m'ont dit cette chose-là. Parce qu'il faut ajouter une huitième béatitude, bienheureux celui qui n'est pas passé par la psychanalyse, vous voyez. Quand on est obligé d'y passer, on y passe, c'est évident. Et de temps en temps, ça peut faire du bien, je comprends. Il faut faire attention, c'est tout. Il ne faut pas envoyer n'importe qui faire psychanalyser. Alors ils m'ont dit cette chose, que quand, paraît-il, le malade est sur le divan, à un moment donné, et c'est très beau, à un moment donné, il pose la question, docteur, croyez-vous en l'homme? Je trouve ça extraordinaire. Il faudrait que toujours il y a ce moment-là. Croyez-vous en l'homme? Alors je dis, alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Ah, on respecte la méthode. Alors là, j'ai bondi. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de se noyer, vous dites, je respecte la méthode. Vous devez quand même essayer de le sauver. Ah oui, mais la méthode doit le sauver. La méthode. Elle n'est pas absolument sûre. Alors ils m'ont posé la question. C'était, vous voyez les dialogues qu'il y avait. Ils m'ont posé la question. Alors qu'est-ce que vous diriez, vous? Je n'avais pas pensé à ça. Je n'étais jamais trouvé devant ce cas. De quelqu'un qui est sur les divans, il ne fait pas de la direction spirituelle comme ça. Peut-être quelqu'un sur les divans. Alors il paraît-il, je comprends très bien ce cri d'angoisse. Et ça y est, ça peut exister. On voit très bien quelqu'un qui est angoissé. Croyez-vous en l'homme? Alors, je dis, moi, après j'aurais répondu, oui, je crois en l'homme. Un but dans sa vie, qui se donne à quelque chose, une finalité, un but. Puis j'ai développé ça. Puis alors, comme je sais, quand on a affaire à des freudiens, à des savants, il ne faut jamais leur demander s'ils sont d'accord. Jamais. Il faut se taire. On dit ça. 6 mois après,